édition spéciale sur RFI.
Vincent Souriau.
C'est un pas que nous aurions dû franchir il y a longtemps, reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Déclaration hier soir de Donald Trump qui rompt avec la politique américaine au Proche-Orient. Il prend position sur l'un des dossiers les plus disputés du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Quelles implications sur place et dans le monde? Quelle signification politique aussi côté américain? On en parle jusqu'à 7h30 avec nos invités. Vincent Lemire est avec nous en ligne de Jérusalem. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur à l'Université Paris-Est, auteur l'an dernier de Jérusalem, histoire d'une ville-monde. C'est paru aux éditions Flammarion. En studio, Jean-Éric Brana. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Maître de conférence à l'Université Paris 2, Société et politique américaine. Votre dernier livre, Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. Merci à tous les deux de nous rejoindre. Vincent Lemire, pour commencer, c'est un tournant. C'était attendu ou ça ne va pas changer le cours de l'histoire? Comment vous voyez les choses?
Écoutez, c'était un tournant. Il était attendu depuis une huitaine de jours. Les signes étaient tous convergents. Mais c'est un tournant historique. Voilà. Donc ça n'est pas une surprise, mais c'est un tournant historique. D'abord parce que Trump rompt avec effectivement 70 ans de diplomatie américaine, mais surtout Trump s'assied sur le droit international. Et donc il faut mettre cette décision aussi en ligne avec ce qu'il a fait sur l'UNESCO, sur les accords de Paris, sur l'accord de l'Iran. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de très violent contre le droit international et contre le multilatéralisme auquel Trump ne croit pas. Et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, évidemment, dans la région.
Alors, pour bien comprendre, Vincent Lemire, il faut qu'on revienne un instant aux fondamentaux. Je vais vous demander d'être synthétique. Mais qu'est-ce que ça représente, Jérusalem? Pourquoi c'est un catalyseur de la colère au Proche-Orient?
Écoutez, d'abord parce que c'est une ville dans laquelle aujourd'hui il y a plus de 40% de la population qui n'est pas israélienne. Je parle dans les frontières municipales. Donc si vous voulez faire de cette ville une capitale alors que 300 000 de ses habitants, 40% de la population ne participent pas aux élections, ni nationales, ni locales, c'est évidemment extrêmement embêtant, quoi. C'est aussi une ville dans laquelle il y a ce qu'on appelle la vieille ville, c'est-à-dire le cœur historique, hein, celui que tous les touristes visitent. Dans cette vieille ville, il y a 35 000 habitants et aujourd'hui, il y a entre 3 et 4 000 juifs israéliens dans cette vieille ville, donc moins de 10%. D'accord. Donc quand on dit que la question de la souveraineté sur Jérusalem est un problème et que c'est un problème de droit international, c'est la réalité. Parce que depuis quasiment l'origine de l'ONU, depuis 1947, Jérusalem est sous statut international et c'est une ville universelle depuis son origine. C'est le berceau des trois monothéismes, du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Donc de fait, la communauté internationale a des responsabilités particulière par rapport à cette ville. Et de ce point de vue-là, la pseudo-démonstration de Trump hier sur chaque pays a le droit de choisir sa capitale est absolument évidemment à côté de la plaque. Mais voilà, ça c'est un autre sujet.
Jean-Éric Brana, il le savait, hein, Donald Trump, il le savait que c'était un totem pour le monde arabo-musulman. Où est son intérêt là-dedans?
Alors c'est vous qui dites qu'il savait. Moi je suis un peu plus sévère ce matin avec Donald Trump. Je crois que
il a parlé sans savoir.
Je crois que c'est plus complexe ou plus simple que ça. C'est qu'en réalité, on le voit dans tous les grandes décisions qu'il a prises et dans les grands événements, il y a quand même on va pas dire de l'inconscience, quoique si on va le dire. Il y a quand même un manque de vue politique, de profondeur politique, qui fait qu'on ne prend pas en compte les complexités du monde, le mal que l'on peut faire aux autres en prenant des décisions, ce qui est le rôle d'un politicien. En réalité, le monde est assez simple et assez binaire. Il y a le bien, le mal, les choses qui doivent être à leur place. Et la complexité du monde, on le voit maintenant, ça se dessine assez bien, échappe totalement à Donald Trump. Autrement dit, il est en train de réorganiser le monde, un nouvel ordre mondial à sa façon. Et effectivement, je crois que la présidence Trump sera la réorganisation de l'ordre mondial de façon très profonde, parce que je m'inscris exactement dans ce qui a été dit par
Vincent Lemire,
juste tout à l'heure. On a quand même une chaîne d'action qui maintenant est assez logique depuis le retrait du TPP, des accords de Paris, de l'UNESCO. Ça va continuer. Hein. Vous pouvez parier sur l'ALENA et l'OMC derrière. Ça va être effectivement des grands bouleversements qui sont quand même très profonds en une seule mandature.
Là-dessus, il y a un choix politique quand même sur le Proche-Orient. On sait que c'est un dossier explosif et un président américain doit en être conscient. Est-ce qu'il y a des forces derrière lui qui l'ont poussé Est-ce que ses conseillers ont voulu qu'il prenne cette décision?
Et non, justement, c'est même tout le contraire. Ses conseillers ont voulu qu'il ne prenne pas cette décision. En réalité, les gens qui sont à côté de lui, qui font partie de son gouvernement, comme Tillerson, ministre des Affaires étrangères, ou Mattis, le ministre de la Défense, ont même donné l'avis contraire. Les conseillers qui ont poussé pour cette décision sont son gendre, Jared Kushner, et quelques personnes qu'il a nommées, comme Gary Kahn ou Friedman, qui est l'actuel ambassadeur des États-Unis en Israël, qui sont des juifs orthodoxes. Et faut savoir que les Américains juifs orthodoxes ont voté Donald Trump en très grande majorité, 24% des juifs américains, mais une très grosse majorité de ces juifs orthodoxes qui choisissent Donald Trump. Et il y a un deuxième groupe qui est en faveur de cette décision, qui sont les évangélistes américains, puisqu'ils ont une idée de rapprochement biblique entre juifs et chrétiens. Et Donald Trump a fait un très grand rapprochement avec ses évangélistes depuis qu'il est élu président, parce qu'eux aussi ont voté à 85% pour sa présidence. Donc c'est de la politique intérieure, encore une fois. Donc effectivement, on se détache de l'ordre mondial, on se détache du multilatéralisme qui a eu lieu jusqu'à maintenant, qui a présidé jusqu'à maintenant dans la politique étrangère américaine. On se détache de la politique étrangère, tout ça c'est une affaire de politique intérieure. Et Donald Trump n'est en réalité pas intéressé par les affaires du monde. Donc les conséquences qu'il y a aujourd'hui dans le monde, j'ai envie de dire, lui échappent. Mais juste sans être trop long, il faut regarder les débats aujourd'hui sur les chaînes américaines. C'est assez édifiant parce que ça n'est même pas discuté sur le fond aux États-Unis. La plupart des commentateurs trouvent que c'est une décision normale puisqu'elle aurait dû être faite depuis très longtemps. Donald Trump a d'ailleurs expliqué qu'il était très courageux, lui, ouais, puisqu'il avait eu... il avait l'audace de faire ce qui devait être fait depuis très longtemps, puisqu'il y a même une loi depuis 1995 votée par le Congrès américain qui reconnaissait cette capitale, Jérusalem, pour Israël.
Vous évoquiez les conséquences de cette décision. On va justement partir en Jordanie avec Jérôme Borouzewski. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
C'est la Jordanie qui veille sur les lieux saints de Jérusalem à travers sa fondation religieuse. Il y a aussi sur le sol jordanien une très importante diaspora palestinienne. Et la classe politique en Jordanie ce matin fait bloc contre Donald Trump, Jérôme.
Oui, il y a unité ici autour du roi de Jordanie, Abdallah II, qui avait mis en garde à plusieurs reprises les États-Unis contre le danger que représentait la décision de déménager l'ambassade des États-Unis. Saud Salim est un député d'opposition, membre du parti des Frères musulmans en Jordanie, et il affirme que les élites politiques du pays ont mis leur dissension entre parenthèses depuis hier.
La Jordanie n'est pas faible. La Jordanie n'est pas seule. Les gens soutiennent le gouvernement. Le Parlement soutient le gouvernement. Ils parlent d'une seule voix. Tous les députés sont unis comme les doigts de la main. Nous avons des différences sur le terrain politique. Mais nous sommes unis sur la question de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une grave agression sur Jérusalem.
On l'entend, Jérôme, unité nationale, pouvoir et opposition sur la même ligne. Est-ce qu'il y a aussi de la colère ?
Oui, d'ailleurs, des manifestations sont prévues aujourd'hui et surtout demain à l'issue de la prière du vendredi au centre-ville à Amman. Hier, la ville est restée calme. Certes, il y avait un dispositif de sécurité plus important que d'ordinaire devant l'ambassade des États-Unis, avec notamment de nombreux véhicules militaires. Alors, colère, oui, incompréhension. Le royaume jordanien est le gardien des lieux saints chrétiens et musulmans de Jérusalem. Le pays a signé la paix avec Israël. Il se sent responsable d'assurer la stabilité de la ville sainte et cela va devenir extrêmement compliqué d'après Abdallah Al-Akaila. Il est député jordanien indépendant, mais lui aussi proche de l'opposition.
Notre accord de paix avec Israël de Wadi Araba en 1994 est maintenant relégué aux oubliettes. Parce que nous, le royaume hachémite de Jordanie, avons la responsabilité d'assurer le gardiennage de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Maintenant, le déménagement de l'ambassade à Jérusalem signifie qu'Israël aura la souveraineté sur toute la ville. Alors où est la souveraineté des Jordaniens ? Cette décision est folle parce qu'elle va à l'encontre des droits des nations musulmanes et des Palestiniens.
Alors ce député appelle à des mesures radicales. Il veut que les pays arabes fassent pression sur Israël et les États-Unis pour que Washington revienne sur sa décision.
Ils doivent menacer les Israéliens de fermer leurs ambassades dans les capitales et menacer de rompre les relations diplomatiques avec Israël. Et ils doivent aussi dire aux États-Unis qu'ils vont réexaminer leurs relations diplomatiques.
Mais le roi n'est pas allé aussi loin.
Je sais, mais les gens doivent pousser dans cette direction, les parlements également, pour faire pression sur leur gouvernement et menacer Washington de fermer leurs ambassades si les États-Unis maintiennent cette décision.
Jérôme, est-ce qu'il y a une chance, comme le dit ce député, que la Jordanie hausse le ton vis-à-vis de Washington ?
Alors, que la Jordanie fasse pression, oui, mais cette pression sera forcément limitée. Pourquoi ? Parce que Amman est un fidèle allié de Washington, un allié militaire dans la région et dans la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient. Amman dépend de l'aide américaine, 1,3 milliard de dollars cette année. Vous voyez donc, la Jordanie dispose d'un levier limité pour peser sur la diplomatie américaine.
Jérôme Borouzewski, merci à Amman en direct. On est toujours avec Vincent Lemire en ligne de Jérusalem et avec Jean-Éric Brana en studio à Paris pour décrypter la prise de position de Donald Trump. Vincent Lemire, il y a un point qui vient d'être soulevé par l'un de ses députés jordaniens que j'aimerais éclaircir. Il dit que le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, ça veut dire qu'Israël aura la souveraineté sur toute la ville. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est le seul point à la limite sur lequel Trump n'a pas été au plus haut de ce qu'on pouvait craindre. Globalement, il est vraiment dans le haut du spectre de ce qu'on pouvait craindre. Le seul mot qu'il n'a pas prononcé, c'est « undivided ». Il n'a pas dit « Jérusalem undivided »,
donc «
Jérusalem indivisible, capitale d'Israël ». Et puis, il a ajouté, c'est l'autre nuance, mais qui va avec, que sa décision était prise sans préjudice sur les futures frontières de Jérusalem, « specific boundaries in Jérusalem », dans le cadre des négociations, etc. Donc, bon, en toute rigueur, ce que vient d'affirmer là le député jordanien n'est pas juste sur le plan de la déclaration de Trump. Mais par terme de droit international, il a entièrement raison. Il faut rappeler un épisode précédent qui est celui de 1980, la loi fondamentale votée par la Knesset, ce qu'on appelle la loi de Jérusalem. Il faut rappeler qu'Israël n'a pas de constitution, mais c'est une collection de lois fondamentales. Et en 1980, la Knesset, donc le Parlement israélien, vote une loi qui fait de Jérusalem, pour le coup, complète et unie, donc indivisible, donc évidemment ouest et est, la capitale pour toujours d'Israël. Et au moment où cette loi est votée, il y a 16 ambassades internationales à Jérusalem, y compris, alors il y a des petits pays, mais il y a y compris les Pays-Bas. On l'a un petit peu oublié. Et dans les jours qui suivent, il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a la résolution 478, et l'ONU exige que toutes les ambassades quittent Jérusalem et aillent à Tel Aviv, parce que le fait qu'Israël ait affirmé, si vous voulez, sa souveraineté sur l'Ouest et sur l'Est fait que plus aucune ambassade ne peut rester. Et de fait, c'est ce qui se passe. On passe de 16 ambassades à zéro. Donc, c'est ce que j'appellerais l'effet boomerang, si vous voulez. C'est que, comme l'a dit l'invité qui est en studio,
ouais, Jean-Éric Brana,
je veux dire, voilà, on a effectivement un niveau d'incompétence, il faut le dire, et d'inconscience de Trump, qui va jusqu'à prendre des décisions qui peuvent y compris desservir, mais même à assez brève échéance, ceux qu'il croit ou qu'il prétend servir. Hier, effectivement, toute la droite israélienne est passée devant les caméras pour se féliciter. Mais alors, évidemment, il va y avoir des violences, il va y avoir des contestations, etc. Mais pas seulement ça. Peut-être que effectivement, la communauté internationale, peut-être que la diplomatie va se mettre en mouvement. On vient d'apprendre là il y a quelques heures que la France convoquait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sous présidence du Japon d'ici la fin de la semaine. Enfin, voilà, il a appuyé sur un bouton et comme souvent avec Trump, on ne sait pas où ça va aller. Il faut se souvenir qu'au moment de l'accord de Paris, il en est ressorti quand même un petit peu seul, même très très seul. Ouais. Donc voilà, on est au tout début du processus.
Jean-Éric Brana, ça isole complètement Donald Trump. Ça aussi, il s'y attendait ou vous pensez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que en fait, il prend des risques qui ne sont pas calculés ?
Alors sur l'isolement des États-Unis, ça vous a pas échappé que c'était déjà bien en marche depuis quelque temps. Donc ça ne fait que renforcer effectivement cette idée. Comme il nous l'a dit le 20 janvier, il est président des États-Unis et uniquement des États-Unis et pas président du monde. Donc il applique ce principe-là. On n'a plus à s'intéresser au monde. D'ailleurs, retenez cet axiome qui est important. Ça coûte très cher de s'occuper du monde. Donc on arrête de s'occuper du monde, de payer un peu partout et on ramène tout cette cet argent aux États-Unis, on s'occupe de nous. Cet égoïsme qui est, il faut l'appeler comme ça, hein, qui est développé, là aussi, je rejoins Vincent Lemire sur son analyse, c'est, ça va se retourner contre les gens qu'il prétend servir en réalité, parce que l'effet boomerang, quand on se renferme ainsi, est quand même très fort. Même si le marché américain peut se suffire à lui-même, on est dans un monde globalisé, qu'on le veuille ou pas, et la diplomatie américaine n'a pas les moyens de tous les axes qu'elle essaie de couvrir actuellement ou de ne plus couvrir. Donc c'est vrai qu'il y a une réalité du monde qui lui a échappé avec les accords de Paris, qui lui échappe avec les retraits de coopération, notamment le retrait de l'UNESCO, qui va lui échapper maintenant avec cette décision d'aujourd'hui, qui crée des dégâts qui vont être à très long terme quand même.
Alors, il y a eu bien sûr beaucoup de réactions, Jean-Éric Brada, Vincent Lemire, l'un des premiers à s'exprimer, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. On l'écoute et on va décortiquer ses propos.
Nous sommes profondément reconnaissants envers le président Trump pour sa décision juste et courageuse de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y préparer l'ouverture de l'ambassade américaine. Cette décision reflète l'engagement du président de tenir ses promesses et d'avancer vers la paix. La décision du président est un pas important en direction de la paix, car il n'y aura pas de paix possible sans que Jérusalem soit la capitale de l'État d'Israël. J'appelle tous les pays qui recherchent la paix à rejoindre les États-Unis dans la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et à y installer leur ambassade. Je partage l'engagement du président Trump à avancer sur le chemin de la paix entre Israël et tous nos voisins, y compris les Palestiniens. Tel a été notre but depuis la naissance d'Israël, et nous continuerons à travailler avec le président et son équipe pour faire de ce rêve de paix une réalité. Je veux aussi être très clair. Il n'y aura aucun changement sur le statu quo des lieux saints. Israël continuera de garantir la liberté de culte aussi bien pour les Juifs que pour les chrétiens et les musulmans.
Cette conclusion, Vincent Lemire, Israël va continuer de garantir la liberté de culte pour tout le monde à Jérusalem. Qu'est-ce que ça signifie pour la suite, ça, en quelques mots, parce qu'il nous reste quelques secondes?
Mais ça signifie que Netanyahou s'exprime après la crise des portiques de juillet dernier, qui a été pour lui une humiliation et une défaite complète, et qu'il faut replacer effectivement là le soutien à cette décision, parce qu'en juin, Netanyahou et les membres de sa sécurité n'étaient pas tout à fait pour. Là, ils sont tout à fait pour parce qu'ils veulent laver l'affront de leur défaite au mois de juillet. Et le mois de juillet, c'était une tentative israélienne de prendre le contrôle de l'esplanade des mosquées par la mise en place de ces portiques, puisque les propres services de sécurité israéliens admettaient qu'ils pouvaient faire passer maximum 5000 personnes par heure par ces portiques de sécurité, alors que l'esplanade des mosquées peut contenir 70 ou 80 000 personnes pendant les grandes prières. Donc, si vous voulez, c'est évidemment une déclaration totalement vide de sens.
Vincent Lemire,
il faut replacer par rapport à ce contexte-là du mois de juillet, qui a été vraiment une humiliation pour Netanyahou.
Merci beaucoup, Vincent Lemire. On n'aura pas le temps d'entendre à nouveau Jean-Éric Brada. Je suis désolé, monsieur Brada. Merci quand même. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. Vincent Lemire, Jérusalem, histoire d'une ville-monde, aux éditions Flammarion.